Les micros ?
La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
Et voilà, comme vous l'avez entendu, on est là. Donc salut, c'est la midinale du 28 février en boucle. Ça va être mignon. Bonjour, c'est la midinale du 28 février. Je suis avec Seb.
Salut.
Avec Nao.
Bonjour à toutes et à toutes.
Avec Asgar.
Salut.
Et avec moi-même, pas toute seule dans ma tête. ouais. On va faire une grosse revue de presse d'abord, et puis une deuxième partie où on vous parlera de guerre, au pluriel. Et vous aurez la chance, à un moment, d'écouter House Gang, parce que nous, on a eu la chance, la semaine dernière, de la voir en vrai, et c'était trop bien. Là, ça va être tout à fait chelou, puisque c'est moi qui vais commencer.
D'accord.
Donc, Stéphanie, tu as quelque chose à dire ? Oui, tout à fait, j'ai quelque chose à dire.
Oh, c'était goût.
Et en fait, je vais commencer par un truc pas drôle du tout. Les nouvelles sont pas bonnes. Je vais vous parler des inculpés du 8 décembre. Et plus particulièrement, je vais vous parler de Libreflo, donc qui est en prison depuis le 8 décembre 2020, donc depuis 14 mois, sur un régime d'incarcération qui est terrible, c'est celui de l'isolement. Et l'information est tombée assez massivement hier. Libreflo a décidé d'entamer une grève de la faim. Ça a été relayé pour une fois, ça a été relayé assez largement par la presse. C'est sans doute la seule bonne nouvelle de tout ça. C'est qu'un détenu qui commence à se laisser crever de faim, ça fait écrire du papier un peu partout. Je vais vous lire son texte que vous trouvez sur le blog des comités du 8-12, donc soutien aux inculpés du 8 décembre, noblogs.org. Pourquoi je fais la grève de la faim ? Cela fait plus de 14 mois que je réfute cette infamante et diffamatoire accusation d'association de malfaiteurs terroristes. Cela fait plus de 14 mois que la DGSI m'a expliqué que je n'étais pas arrêtée pour ce qu'elle voulait me faire croire, à savoir mon engagement auprès des forces kurdes contre Daesh au Rojava. Cela fait plus de 14 mois que rien ne valide la thèse élaborée de toutes pièces par la DGSI, alors même que pendant au moins 10 mois, j'ai été suivie, tracée, sous écoute 24 heures sur 24, dans mon véhicule, mon lieu de vie, espionnée jusque dans mon lit. Cela fait plus de 14 mois que je comprends que ce sont mes opinions politiques et ma participation aux forces kurdes du YPG dans la lutte contre Daesh qu'on essaie de criminaliser. Cela fait plus de 14 mois qu'on reproche une association de malfaiteurs à 7 personnes qui ne se connaissent pas toutes les unes les autres. Cela fait plus de 14 mois à répondre aux questions d'un juge d'instruction utilisant les mêmes techniques tortueuses que la DGSI. La manipulation, la décontextualisation, l'omission et l'invention de propos et de faits afin de tenter d'influencer les réponses. Cela fait plus de 14 mois que je subis les provocations de ce même juge d'instruction qui, alors que je croupis dans les geôles de la République, se permet de me dire que cette affaire lui fait perdre son temps dans la lutte contre le terrorisme. Pire encore, il se permet la plus inacceptable des insultes en se référant aux barbares de l'État islamique comme étant mes amis de chez Daesh. Bien que verbal, cela reste un acte inouï de violence. C'est inadmissible que ce juge s'octroie le droit de m'injurier au plus haut point, tente de me salir et crache ainsi sur la mémoire de mes amis et camarades kurdes, arabes, assyriennes, turkmènes, arméniennes, turcs et internationales tombés dans la lutte contre cette organisation. J'en reste aujourd'hui encore scandalisée. Cela fait plus de 14 mois d'une instruction partielle où, contrairement à son rôle, le juge d'instruction instruit uniquement à charge et jamais à décharge. Il ne prend pas en considération ce qui sort du scénario préétabli et ne sert qu'à valider une personnalité factice, façonnée de A à Z par la DGSI, qui, loin de me représenter, ne reflète que les fantasmes paranoïaques de cette police politique. Ainsi, je suis sans cesse présentée comme leader charismatique, alors même que tout mode de fonctionnement non horizontal est contraire à mes valeurs égalitaires. Cela fait plus de 14 mois que, sans jugement, on m'impose la détention dite provisoire que je subis dans les plus terribles conditions possibles. Le régime d'isolement, considéré comme de la torture blanche, et un traitement inhumain ou dégradant par plusieurs instances des droits humains. Cela fait plus de 14 mois que je suis enterré vivant dans une solitude infernale et permanente, sans avoir personne à qui parler. À juste pouvoir contempler le délabrement de mes capacités intellectuelles et la dégradation de mon état physique, et ce, sans avoir accès à un suivi psychologique. Après avoir, sous des airs faussement neutres, fourni à l'administration pénitentiaire des arguments fallacieux pour s'assurer de mon maintien à l'isolement, le juge d'instruction demande le rejet de ma demande de mise en liberté, tout comme le parquet national antiterroriste. Pour ce faire, ils reprennent presque en copier-coller le rapport de la DGSI du 7 février 2020, base de toute cette affaire, dont nous ne savons pas d'où viennent les informations et dont la véracité n'a pas été démontrée. On est en droit de se demander à quoi ont servi les écoutes, les surveillances, les sonorisations et ces 2 ans d'enquête judiciaire et d'instruction, puisque sont occultés les faits qui démentent la construction mensongère de la DGSI. Le parquet national antiterroriste et le juge d'instruction n'ont de cesse d'essayer d'instiller la confusion et de créer l'amalgame avec des terroristes islamistes, alors même qu'ils savent pertinemment que j'ai combattu contre l'État islamique, notamment lors de la libération de Raqqa, où avaient été planifiés les attentats du 13 novembre. Le juge d'instruction prétend craindre que j'informerai des personnes imaginaires de ma situation alors que celle-ci est publique, notamment parce que la DGSI ou le PNAT, eux-mêmes, ont fait fuiter l'information dès le premier jour. Il prétend ainsi m'empêcher toute pression sur les témoins, les victimes et leurs familles, alors même qu'il n'y a ni témoins, ni victimes, puisqu'il n'y a aucun acte. C'est ubuesque. Est aussi évoquée sa crainte d'une concertation entre co-inculpés et complices, même si toutes et tous les inculpés ont été mis en liberté, qu'il n'a plus interrogé personne d'autre que moi depuis octobre 2021, et que j'ai attendu patiemment qu'il ait fini de m'interroger pour déposer cette demande de mise en liberté. Il aurait pu être comique, dans d'autres circonstances, de constater l'utilisation à charge de faits anodins comme jouir de mon droit à circuler librement en France et en Europe, de mon mode de vie, de mes opinions politiques, de mes pratiques sportives, de mes goûts pour le rap engagé ou les musiques kurdes. Le juge d'instruction s'en prend à ma mère, en la désignant comme n'étant pas une garantie valable, pour la simple raison qu'elle n'a pas empêché son fils, âgé de 33 ans à l'époque, de rejoindre les forces kurdes des YPG dans la lutte contre Daesh. Encore une fois, c'est ma participation dans ce conflit qu'on criminalise. Il lui reproche également l'utilisation d'applications cryptées, WhatsApp, Signal, Telegram, comme le font des millions de personnes en France. Enfin, il dénigre tout d'un bloc, toutes les autres options de garantie, travail, hébergement. Sans rien avoir à leur reprocher, alors même que les personnes du SPIP, dont celle métier, ont rendu un avis favorable. Comment alors comprendre qu'après avoir ordonné ces enquêtes de faisabilité signifiant la possibilité de me remettre en liberté avec bracelet électronique, le juge des libertés et de la détention, malgré le rendu, refuse ensuite de le mettre en place. Nous sommes nombreux et nombreuses à constater que dans toute cette affaire, la justice viole ses propres lois et est soumise à l'agenda politique de la DGSI. J'ai récemment appris de la bouche même du directeur des détentions de la maison d'arrêt des Yvelines, Bois d'Arcy, que je remercie pour sa franchise, que mon placement et mon maintien à l'isolement étaient décidés depuis le premier jour par des personnes très haut placées et que quoi que je dise ou que lui-même dise ou fasse, rien n'y ferait, que cela le dépasse, le dossier ne sera même pas lu et je resterai au quartier d'isolement et que de toute façon, rien ne pourrait changer avant les élections présidentielles. Puisque l'on cherche à criminaliser les militants et militantes ayant lutté avec les Kurdes contre Daesh, puisque l'on utilise la détention soi-disant provisoire dans le but de punir des opinions politiques. Puisque cette histoire n'existe qu'à des fins de manipulation politique. Puisqu'aujourd'hui, on ne me laisse comme perspective que la lente destruction de mon être. Je me déclare en grève de la faim depuis le dimanche 27 février 2022 à 18h. Je ne réclame à l'heure actuelle que ma mise en liberté, en attendant de démontrer le côté calomnieux de cette honteuse accusation. Libre flot. Enfin, moi, ça me fout une trouille sans nom, en fait, cette histoire de grève de la faim. C'est arrivé à cette extrémité. Enfin, c'est assez insoutenable, en fait. Du coup, les comités de soutien appellent à un soutien maintenant massif pour suite à cette décision qui est une décision d'un grand courage de sa part. C'est aussi de sa part une manière de reprendre les choses en main. C'est maintenant là qu'il a vraiment besoin, encore plus là qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin qu'on en parle, qu'il a besoin que cette information tourne. Les comités de soutien proposent qu'on lui écrive via les adresses des comités locaux. Donc vous avez sur le blog les trois adresses du comité 8-12 Toulouse, 8-12 Rennes, 8-12 Paris. On les remettra sur l'article de la Midinale. Je vous engage vivement à lui envoyer vos lettres de soutien ou de ce que vous voulez d'ailleurs.
Ouais. Il y avait donc sur le site des comités de soutien, il y a deux textes qui sont parus récemment suite au refus des juges des libertés de le laisser en liberté en attendant son procès. Et il y a notamment une lettre qui a été faite par Camille, une des inculpées. Et je vais vous en lire la fin. C'est une lettre qui a été adressée au juge Herbeau. Et je vous en lis juste la conclusion. Monsieur le juge, dans un long courrier que vous a adressé la dernière personne que vous maintenez en détention, il est fait mention d'une de vos déclarations selon laquelle nous vous ferions perdre votre temps dans la tâche qui serait la vôtre, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme. On pourrait alors raisonnablement penser que si vous avez le sentiment que cette affaire vous fait perdre votre temps, peut-être n'a-t-elle simplement rien à faire entre vos mains, ni même de raison d'être. Ainsi, est-il peut-être grand temps, monsieur le juge, de nous libérer du poids de votre enquête, car nous, c'est bien notre vie qu'elle fait perdre. Camille.
Du coup, ouais, n'hésitez pas à aller sur le site du soutien aux inculpés du 8 décembre, à faire tourner cette information, à coller des stickers partout, la prison pue. N'hésitez pas. On va parler d'une affaire plus proche localement. On reparle de Pontanezen.
Oui, on va en parler un petit peu, mais brièvement, on s'y attardera sûrement plus la semaine prochaine. Mais vendredi dernier, il y avait donc le procès de 8 personnes. Enfin, en fait, il n'y en avait que 5 qui comparaissaient, puisque dans cette affaire, 3 sont des mineurs et seront jugés par une autre cour, par le juge des mineurs. Et moi j'y ai assisté en partie parce que c'était très long, ça s'est terminé très tard dans la nuit, donc je suis resté jusqu'à 20h, j'ai un peu vu le déroulé du procès. Mais on a Nao avec nous qui a assisté à la fin, qui va peut-être nous en parler un petit peu aussi. Et les peines sont tombées, je sais pas si tu veux les
Oui, donc pour rappeler un peu... les peines qui sont tombées contre en fait ces jeunes de Pontanezen et autres, parce que en fait dans le box des accusés ce jour-là il y avait donc 3 jeunes de Pontanezen ainsi que 2 autres, un qui venait du quartier de Rouen me semble-t-il, et un autre d'un autre quartier de Brest dont j'ai oublié tout simplement le nom. Donc les peines sont pour la plus lourde des 18 mois de prison, donc c'est 14 mois de prison ferme et 4 mois, il me semble, de prison avec sursis. Pour un jeune de 19 ans qui a bien sûr été le seul reconnu des violences qui ont été qu'ont subi soi-disant les policiers qui étaient intervenus ce jour-là. Et de 10 mois de prison ferme pour les deux autres jeunes présents dans le box. Et ainsi que 6 mois de prison avec sursis pour les deux autres jeunes qui n'étaient pas du quartier de Pontanezen mais qui étaient présents dans l'appartement ce jour-là. Dont un jeune qui a également été sanctionné d'une interdiction de paraître dans le quartier de Pontanezen. Donc voilà, donc comme disait Asghar, en fait, le procès a duré très très longtemps. Donc nous, on a dû arriver sur les coups de 13h30. Donc après deux affaires de comparution immédiate, il me semble que le procès a commencé à...
Dans les 15h.
15h à peu près, c'est terminé. Après une longue délibération de 2h à 23h, il me semble. Donc bien sûr, en fait, ce qui est assez choquant dans ce procès, c'est qu'on a pu assister en fait à une condamnation de ces jeunes de par un dossier qui est en fait totalement vide, en fait, qui est uniquement basé sur le témoignage de la présumée victime, en fait, parce que le procès repose en fait sur le fait que cette personne aurait été séquestrée, donc durant 1h15, il me semble, avant l'intervention des forces de police, en fait, pour pouvoir enfoncer la porte et en fait interpeller les 5 jeunes, du coup. Donc pour en fait resituer les faits, on est le mercredi 19 janvier. Les forces de police débarquent, il me semble, en début d'après-midi, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
En fait,
vers 14h, vers 14h, voilà. Si je me souviens bien du procès.
Donc, donc c'est ça. Donc, bien sûr, ils arrivent très, très équipés. Hein. On parle d'équipement de CRS, donc casque, bouclier, matraque,
flashball.
Gazeuse, flashball, LBD. Donc, en voyant en fait ce déploiement de forces de l'ordre, les 5 jeunes, donc les 8, parce qu'effectivement, il y avait 5 majeurs en fait et 3 mineurs, prennent la peur et en fait se réfugient dans le hall de ce bâtiment. Donc, j'ai oublié le nom de la rue, je ne sais plus si tu t'en rappelles.
C'est rue Daumier.
Rue Daumier.
En fait, rue Daumier.
Tout se joue à un coin de rue entre la rue Cézanne et la rue Daumier.
Voilà,
donc, il y a une descente des keufs qui est commandité par le procureur de la République pour, soi-disant, faire tomber un point de deal. Donc, pour faire tomber un point de deal, on va faire du contrôle d'identité, juste. Hein,
parce contrôle au faciès. Hein.
On n'a pas d'autres éléments, il n'y a pas d'enquête. C'est une politique pénale assumée par l'État, en fait, et le parquet, donc le procureur, et la préfecture, donc le préfet et ses services de police, le commissaire de Brest. Donc on va harceler les points de deal, c'est leur vocabulaire. Et ce jour-là, il y a une descente, donc avec du matériel, des flashballs, etc. Et tout le monde prend la fuite pour ne pas être contrôlé. Le délit de fuite, ça n'existe pas pour les contrôles d'identité. Hein. C'est pas comme... comme avec le code de la route, quoi. Donc tout le monde fuit et se réfugie donc à la porte d'entrée d'immeuble la plus proche, c'est-à-dire rue Daumier. C'est juste en passant l'angle. Et ces gens-là se réfugient dans un appart qu'ils connaissent. Et ils attendent que les flics viennent les cueillir, quoi. Donc ça prendra une heure parce que... C'est un peu complexe, je pense, au niveau de la procédure. C'est-à-dire qu'on n'enfonce pas la porte des gens comme ça. Et donc, ils attendront l'arrivée des services de police dans cet appart-là pendant une heure. Alors, tout l'enjeu, je pense, de l'intervention dans l'immeuble, c'est qu'il y a un motif valable, puisqu'il n'y en avait pas avant. Quoi. Enfin, un contrôle d'identité, ce n'est pas un motif valable pour rentrer chez les gens. Et donc, avec des SMS inquiets de la personne qui occupe ce logement-là, ils vont avoir le prétexte pour forcer la serrure et rentrer cueillir tout le monde. Pendant ce laps de temps, il y aurait des jouets en plastique, une trottinette qui aurait été balancée sur les flics, ce qui justifie des violences. Voilà. Il n'y aura personne qui va être formellement identifié comme ayant commis ces violences-là, mais donc il y a une des personnes, et qui sera la seule reconnue d'après ce que j'ai vu, coupable de violence, qui va donc du coup prendre la peine la plus sévère, parce qu'en attendant que les flics arrivent, elle a été fumer une cigarette sur le balcon. Et donc c'est à peu près le seul élément, me semble-t-il, qui justifie d'une peine de violence dans cette affaire. Tout l'enjeu de ce que j'ai vu du procès, par contre, ça va être de justement d'arriver à légalement établir une condamnation. Et alors il y a beaucoup de chefs d'inculpation qui étaient retenus, je crois qu'il y avait les violences, il y avait comment ça s'appelle quand on rentre dans un appartement
Les fractions.
Enfin bref, il y a absolument rien qui va tenir dans ce dossier-là, si ce n'est, et c'est là-dessus que va se baser le procureur pour demander une peine exemplaire, parce qu'il s'agit d'exemplarité, là.
Pas de justice. Hein.
Il s'agit de condamner les gens et de trouver un motif. Et le motif qui va être créé, c'est celui d'une séquestration. C'est-à-dire que, et puis on va le retrouver alors dans tous les groupes de droite et la presse de droite, hein, on va vous inventer la figure d'une pauvre mère de famille séquestrée avec ses deux enfants. Et du coup, l'accusation, de ce que j'en ai vu, se base sur donc les SMS inquiets de cette dame. Et on comprend qu'il y a de quoi être inquiet, puisque la situation devait être particulièrement angoissante. Il y avait apparemment, selon les dires des accusés, tout Colbert, donc tout le commissariat de Brest, qui était là, arrivé en renfort avec de l'équipement suite à ce contrôle. Et donc il y a de quoi être inquiet, c'est pas du tout la question. Quant au fait que la personne soit séquestrée, c'était bien ça l'enjeu de ce procès-là, et toute l'accusation va essayer de créer cette figure d'une pauvre femme chez qui des jeunes auraient débarqué et l'auraient séquestrée en attendant je sais pas trop quoi, puisque de toute façon ils étaient encerclés, quoi. Je te laisse reprendre, pardon.
Ouais, bah du coup, la défense des accusés a bien sûr mis en lumière le fait que cette personne, en fait, connaissait les jeunes, en fait. Et ils ont réussi à le prouver de par, en fait, des vidéos du réseau Snapchat, où on entend, et des vocaux, où on entend cette personne prévenir, le jeune qui a pris la plus lourde peine sur une histoire intérieure, qu'il pouvait venir s'il y avait des problèmes... se réfugier chez elle, qu'elle espérait qu'il n'était pas blessé suite à une bagarre qu'il y avait eu. De plus, on a pu aussi observer des vidéos où on voit ces jeunes qui sont posés chez cette personne, quoi. Ils sont sur les vidéos, ils sont 4-5, quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir de climat tendu. Donc, comme disait Zahir, en fait, c'est vraiment là le problème, c'est qu'on est face, en fait, à une déclaration d'une personne qui dit qu'elle ne connaît pas ces jeunes, qui sont vraiment entrés chez elle par effraction, qui l'ont séquestrée, qu'ils ont refermé la porte. Elle dit que, pareil, il y aurait eu une odeur de javel, comme s'ils essayaient de nettoyer quelque chose. Là où il faut insister aussi, je pense, c'est que, quand les policiers ont perquisitionné l'appartement, ils ont retrouvé du cannabis, en fait, de la résine de cannabis, je crois, à la hauteur de 40 grammes, il me semble. Et une somme d'argent liquide de 250 euros, en fait. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre de trouver, en fait, c'est stupéfiant, et cet argent chez une personne qui, apparemment, une mère de famille qui ne connaît absolument pas ces jeunes et qui n'a rien à voir, en fait, dans quelconque trafic. Donc, après, en fait, une plaidoirie... Enfin, avant cela, en fait, le procureur, donc... a voulu, en fait, que les juges prononcent une peine dure, en fait, donc vraiment sur, en fait, cette déclaration vraiment de cette femme, en fait, qui n'a vendredi même pas assisté au procès et n'a même pas désigné un avocat, en fait, pour la défendre.
Oui, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne s'est même pas portée partie civile pour porter plainte, quoi. Il n'y a pas de plainte de cette dame, quoi.
C'est vraiment un témoignage, en fait.
C'est le parquet qui s'est saisi, ouais, de cette affaire-là, et qui, pour justifier de sa procédure, construit la figure de la victime. Mmh. Et c'est ça qui est tout à fait, tout à fait singulier.
Exactement.
Oui, et puis elle ne vient même pas témoigner au procès, en plus.
Quoi. Non, c'est ça. Ouais. C'est vraiment le procureur là, qui a voulu cette peine, que cette peine soit dure. Il a fait au moins une plaidoirie pendant une heure, une bonne heure au moins, quoi. Vraiment stigmatisant ces jeunes comme vraiment des délinquants avec déjà des passés, un passé assez lourd, quoi. Bon, il est vrai que il me semble que les deux accusés du box avaient un casier judiciaire assez chargé. C'est exactement sur ça que le procureur a voulu insister. Donc, pour continuer, en fait, malgré une plaidoirie d'au moins deux heures des cinq avocats, donc des avocats de tous les jeunes qui étaient différés aujourd'hui dans ce tribunal, les juges ont délibéré pendant deux heures et ont décidé, en fait, vraiment de condamner ces trois lourdes peines, ces trois lourdes peines, en fait, donc je rappelle de 10 mois pour deux des prévenus accusés dans le box, et de 14 mois pour 14 mois de prison ferme et 4 mois de prison avec sursis pour le jeune qui a été reconnu vraiment de violence envers les forces de l'ordre. Dans ce procès, en fait, on a pu, ce qui était pas mal, c'est qu'on a pu voir vraiment un gros soutien des jeunes et des habitants de Ponta. Ouais. Il devait être au moins 15-20 personnes. Hein.
Mmh. On les a laissés rentrer dans le tribunal.
Au début, les jeunes n'ont pas été laissés rentrer. Pour quel motif, je sais même pas. Je crois qu'ils étaient.
On leur a dit qu'il y avait pas de place.
Il y avait pas de place, ouais, c'est
classique.
Ça. Alors qu'il y avait des. À l'arrière, il y avait.
Enfin, nous, on était à l'aise.
Nous, on était à l'aise. On a même pu observer la présence indésirable du berger des quartiers, de deux autres de ses, ouais. De ses compagnons. Donc non, vraiment, il y avait de la place. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Ouais, donc vraiment un procès assez électrique, parce qu'on a pu voir un peu qu'il y avait au moins les deux des trois jeunes, en fait, dans le box, qui étaient assez révoltés, quoi. Du fait que, en fait, ils savaient qu'ils allaient être condamnés, en fait, sur vraiment un dossier vide, en fait. Donc vraiment, ils ont expliqué leur version des faits, ils ont pu prouver, en fait, que cette personne, elle les connaissait vraiment et qu'elle les a, en fait, laissé rentrer dans son appartement. Donc après, nous, on a discuté entre nous. Moi, la théorie que je vois plausible, c'est que vraiment, oui, vraiment, cette personne les connaissait et que elle peut être, en fait, associé avec ces jeunes dans des affaires dessus, parce que moi, je vois pas comment on retrouve du cannabis et 250€ en liquide. Donc je pense pas que c'est les jeunes qui les ont planqués là, hein, franchement. Donc,
Bon, ça ressemble à, tu peux avoir du liquide chez toi et 40 grammes de shit, ça peut ressembler à une consommation personnelle, hein, tout simplement.
Oui, aussi. Mais ouais, 250€.
Ce qui est fou, c'est que à la base. C'est le proc qui demande cette descente pour faire tomber un point de deal. Ça provoque... après, moi, je comprends qu'il y ait des gens qui se sentent menacés par les flics. Enfin, je veux dire...
Ce que semblait pas comprendre la juge.
Oui, exactement.
À Beaumont-sur-Oise, Adama Traoré est mort pour avoir essayé de se soustraire à un contrôle d'identité. Hein.
Exactement.
Et du coup, tout ça, ça provoque des violences, ensuite une sorte de rébellion assez légitime des habitants du quartier, parce qu'ils en ont plein le cul d'être stigmatisés et contrôlés à la gueule. Et au final, le point de deal, il n'y a pas de point de deal, quoi. Final, on n'est plus du tout sur une affaire de stup, en fait.
Non, ça a viré totalement, en fait, sur vraiment un procès politique, vraiment pour pouvoir... faire un exemple, en fait.
Donc, le même procureur qui demande ses contrôles et faire tomber les points de deal justifie son incapacité et ses mauvaises méthodes par une condamnation hyper lourde de ces gamins, parce que c'est des gamins. Et il y a plein de pays où on va pas en tôle parce qu'on consomme du shit, quoi. Enfin, c'est... Faut arrêter de déconner. Par contre, il y a plein de pays où utiliser des flashballs sur sa population, c'est interdit, quoi.
Ce qui a été fait, d'ailleurs.
Ouais, ce qui a été fait, d'ailleurs.
Oui, parce qu'il y a une vidéo qui a été récupérée par les avocats, il me semble, et qui avait été envoyée à la presse. la presse qui n'a jamais relayé cette vidéo. Nous, on avait pu la voir, puisqu'on était allé interviewer, en tant que journaliste de la radio, un des avocats. Et c'est là qu'on a pris connaissance de cette vidéo, on l'a vue. Et donc, on voit clairement la police utiliser un LBD, donc un lanceur de balles de défense. Donc, normalement, on utilise ça quand on est en danger, j'ai envie de dire, quand on est flic. Et en fait, le tir ne va même pas vers là où il y aurait les échauffourées avec les jeunes. Non, qui se prend le tir ? Une dame qui est dans sa voiture, la fenêtre ouverte, en train de filmer les policiers de loin. En sachant que on ne voit que les policiers dans sa vidéo, au loin. On ne voit pas les jeunes qui seront en train d'affronter les flics. Donc, alors soit, je sais pas, il a pris un coup de coude au moment où il a tiré et la balle est partie à 45 degrés, complètement à l'opposé, enfin presque. Mais on voit clairement que le tir vise la dame, en fait, quoi. C'est un tir tendu qui vise la dame et elle se le prend plein front. Elle a de la chance de le prendre plein front parce que ça tape apparemment, vu la photo qu'on a vue, et l'œuf qu'elle a au front, ça tape même pas un centimètre en dessous. Et je pense qu'on avait notre premier éborgné à Brest. C'est ça. C'est un tir complètement inutile.
Et puis il faut rappeler que c'est le LBD, c'est une arme très destructrice, hein, comparé au flashball. Ah c'est une arme qui est très précise, qui peut toucher avec précision à au moins 50 mètres. Donc je vois pas, pour le nombre d'affaires de personnes qui ont subi des tirs au niveau du haut du corps, je vois pas comment on peut rater son tir, non. Sachant que les services de police et les gens qui ont breveté cette arme la déclarent comme vraiment une arme très 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 précise. Hein.
Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de LBD pour faire des contrôles d'identité normalement. Hein.
Bien sûr.
Non, déjà, non. Non, mais bon, tu vois, cette violence...
C'est vraiment de la répression. Hein, quand ils arrivent avec leur LBD, c'est vraiment pour faire peur aux gens, parce que nombre de jeunes qui se sont pris des tirs de flashball ou de LBD en essayant de courir de dos... Voilà, c'est vrai que quand on voit ça, que ce soit dans les quartiers ou même dans les mouvements sociaux, généralement, ça fait peur, hein, ça calme, ça dissuade, en fait. Mmh. Et je pense que c'est l'effet qui est d'abord recherché, hein, enfin, qui est également recherché, quoi.
Oui, et puis je pense que quand les jeunes voient débarquer des flics avec des LBD, bien forcément, sûr. Ils ont peur. Et alors, c'est ça qui est fou, quoi, parce que ce qu'on disait, la juge, elle, pour elle, c'est pas normal d'avoir peur des flics, hein, c'est voilà. Ce qu'elle leur dit à un moment, c'est le nœud du problème. Votre perception de la police perçue comme hostile qui fait que vous êtes là aujourd'hui ? Bah oui, je suis désolé, moi-même, je vois la police débarquer, excusez-moi, je suis pas rassuré, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Surtout quand ils ont les LBD en main, quoi.
Bien sûr.
Donc, bon.
Ouais, bah. C'est vrai que la juge a vraiment insisté sur le fait qu'elle a questionné au moins... ouais, c'est ça, elle a questionné en fait tous les jeunes dans le box en leur demandant est-ce que vraiment la police était... Est-ce qu'il était légitime de s'enfuir devant la police ? Et également, est-ce que la police, pour eux, était légitime d'intervenir dans certains quartiers, quoi ? Donc, je pense que vraiment, la juge, soit elle n'a pas la même vision de la police que ces jeunes-là et que nombre d'autres personnes en France, ou alors vraiment, c'est vraiment pour essayer d'argumenter et pour essayer vraiment de qu'il n'ait pas de réponse à cette question, quoi. Parce qu'on a bien vu, ils avaient un peu du mal à répondre à cette deuxième question, quoi, les jeunes.
Non, ce qu'il s'agit de toute façon de mettre en avant à chaque fois, c'est que a priori, la police est légitime pour faire absolument ce qu'elle veut, quoi. Et c'est ça que la juge, avec insistance, demandait à ces jeunes de reconnaître, quoi. Elle n'a absolument pas à prouver ou à justifier de ses méthodes. C'est ça qui est particulièrement choquant. La dame qui... Enfin, la vidéo qu'on a vue chez l'avocat, enfin, il devait nous la transmettre, donc on la fera tourner quand on l'aura. Je pense pas que cette dame ait été visée, quoi. Enfin, elle était simplement dans sa voiture. On voit très clairement que le tir est un tir tendu puisqu'il arrive parfaitement à l'horizontale. Mmh. Et c'est bien ça qui est choquant. C'est-à-dire que, n'étant pas visée, la police semble tirer des balles de LBD n'importe comment. C'est-à-dire que cette dame n'était pas visée, mais elle s'est prise.
Bah, c'est dur de dire quand même qu'elle n'était pas visée. Je veux dire, le tir vient d'assez loin. Hein. Quand on le voit partir, on ne se rend pas bien compte si l'arme est pointée vers elle. Ça part du paquet de flics. Mais bon, j'ai du mal à croire que le gars, il a visé 45 degrés à côté et que sa balle soit partie là, quoi. Moi, j'y crois pas, quoi.
Pour moi,
elle a été visée. Tiens, il y a quelqu'un qui filme. Voilà.
Bien sûr, mais j'aime personnes qui ont été visées parce qu'ils filmaient. Enfin, moi, j'en connais certaines dans les mouvements sociaux. C'est le cas de l'affaire Rodriguez. Voilà, il est en train de filmer. Bon, de part vous diront qu'il a été visé parce que c'est une figure des Gilets jaunes, mais comme il dit, je vois pas comment il est possible de se prendre un, par erreur un tir vraiment sur des zones ciblées au niveau de la tête, quoi. C'est que soit les armes sont défectueuses, mais je ne pense pas, parce qu'encore une fois, elles sont décrites par, par les services de police et par les ministères comme une arme très précise, à létalité réduite. Donc,
bon, en tout cas, ça, on aura du mal à prouver si elle était visée ou pas.
Mais bon, je voulais juste ne pas me prononcer sur l'intentionnalité des flics, enfin, peu importe. Ce qui est par contre particulièrement choquant sur cette vidéo, c'est qu'on voit que cette femme se prend dans sa voiture cette balle et que des mères de famille traversent juste devant. Ouais. Et sur l'intentionnalité, peu importe, c'est la disproportion de l'usage de la force qui est faite n'importe comment, qui est particulièrement choquant dans cette affaire. Ouais. Et au-delà de la simple question de la manière dont ça a pu dégénérer, donc les flics ont pu faire usage de LBD ou pas, c'est ce qui est particulièrement intriguant dans ce procès-là, c'est que ce qui n'est pas interrogé, c'est la méthodologie même de la police à ce moment-là. Et qu'on a l'impression que ce procès-là, il est simplement fait pour légitimer le fait de descendre n'importe comment sur un point de deal. S'il y a un point de deal au 9 Cézanne et ça semble être de notoriété publique, il y a des manières de faire. Et c'est pas tant le fait que quelque chose dégénère qui pose problème. C'est en amont la méthodologie même qui est mise en place pour soi-disant lutter contre le trafic de stupéfiants qui est devenu une priorité du Finistère et de la ville, qui va aller tomber pour faire tomber toutes les petites branches, selon l'expression du procureur, c'est-à-dire tous les petits, et qui agit absolument n'importe comment, sans enquêter. Le procureur se vante de ne plus enquêter sur le trafic de stupéfiants. C'est-à-dire que c'est ce type de méthodologie-là qui engendre ces situations-là. On va faire du contrôle d'identité, du contrôle au faciès, et ça génère ce type de situation-là. Ce procès-là, il vient enterrer les pratiques, c'est-à-dire qu'il fallait une condamnation, il fallait que ces jeunes, peu importe leur casier ou quoi que ce soit, et puis on parle de casier qui, où il y a en effet plusieurs éléments, mais c'est à chaque fois des histoires de petits deals, des histoires de condamnation pour non-respect du confinement, des histoires de recel de petits objets qui ont été revendus. Enfin, on criminalise et on fait quelque chose de terrifiant, ce qui relève d'une toute petite délinquance, quoi. Enfin, bon, et on construit des figures de sauvages, de quartiers gangrénés par la drogue, sur simplement des petits jeunes qui font un peu de bise pour s'arrondir les fins de mois, quoi. Enfin, et
on sait très bien que ce genre de méthode, en fait, à part emmerder les petits en bas, c'est pas comme ça qu'on casse un trafic de drogue, quoi. Tant que tu t'attaques pas à la source du trafic, ils seront remplacés, de dire, quoi. Ça, c'est comme ça partout, quoi.
Puis ça favorise bien sûr les actes après de qui se sont déroulés les jours suivants. Donc je rappelle le soir même déjà des tirs de mortier, une voiture incendiée, puis après
le feu d'artifice.
Et puis le samedi d'après des tirs aussi sur le tram et puis sur également malheureusement sur les pompiers, quoi, qui étaient venus éteindre le feu.
Ouais, de toute façon, on voit bien, enfin, dans tout ça, c'est le but de criminaliser des certains individus, mais visiblement, ça n'a pas suffi encore à Nazim Yenié, là, le fondateur des bergers de quartier, quand même, je comprends même pas pourquoi France Bleu lui donne la parole à la suite de ce procès, quoi, ou parce que les jeunes, bah, c'est normal, t'es à la barre, on te pose des questions, bah oui, tu te défends, t'apportes une autre parole, mais pour lui, c'était de l'insolence, tu vois. Il a été choqué par l'insolence des prévenus. Et il rajoute, la justice doit se montrer beaucoup plus sévère envers ce genre d'individu.
Ouais, mais lui, c'est un facho, de toute façon.
Il y a la justice, il y a des articles. Je veux dire, s'ils doivent être punis de quelque chose, il y a déjà tous les outils pour le faire. Pourquoi elle serait beaucoup plus sévère dans un cas ou un autre et envers ce genre d'individu? Qu'est-ce qu'il entend par ce genre d'individu, lui?
Ce qui énerve énormément, je pense, ces gens dans l'attitude des jeunes qui étaient au procès, c'est qu'ils sont parfaitement calmes Ils sont parfaitement calmes. Moi, je les ai trouvés d'une clarté totale, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent absolument ce qu'ils ont fait. Ils ont fui un contrôle de police. Ils se sont réfugiés dans un appartement parce que, et ils le disent, parce qu'ils pensaient qu'éventuellement, bah, les flics n'auraient pas de mandat pour venir. Et ils ont simplement attendu que les choses se fassent parce que certains disent qu'ils ne voulaient pas éventuellement en prendre plus cher dans la tronche que ce qui aurait pu arriver.
Il y en avait un qui avait une fiche de recherche aussi. Certains avaient peur aussi de prendre des coups.
Bah oui.
Pour moi, c'est légitime après.
Ouais. Est-ce que, du coup, pardon, ils ont délibéré, la peine est tombée. Donc pour 5 d'entre eux sur les 8, est-ce qu'on sait déjà s'ils ont l'intention de faire appel ou
Alors, moi, il y a un des avocats qui a été interviewé par France Bleu, derrière, je crois que c'est celui qu'on était allé voir, monsieur Pierre Tracol, qui en parle vite fait à la fin, qui dit qu'ils vont justement se voir entre avocats, décider, puis sûrement avec les jeunes qui sont punis, quoi,
j'espère.
Et qui vont voir s'ils vont faire appel. Ils ont 10 jours pour faire appel depuis vendredi, quoi.
Et pour aller dans le sens de ce que tu disais, moi, ce qui me choque pas tellement, ça me choque pas tellement que des gens d'extrême droite récupèrent ce type, ce type d'affaires,
c'est
leur fonds de commerce.
Exactement.
Ils vont toujours défendre des pseudo-veuves et des pseudo-orphelins. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, par contre, c'est que c'est exactement la même rhétorique qui est mise en œuvre par la justice.
Oui.
Et que des groupes d'extrême droite aient ce type de propositions, c'est-à-dire des propositions d'exclusion du logement, du quartier, d'exclusion des gens, c'est tout à fait logique, quoi. Enfin, c'est leur fonds de commerce.
Ouais.
Mais là, ce sont des mesures qui sont prises par l'État, par le procureur de la République. Et ce qu'on voit à l'issue de ce procès qui est particulièrement choquant, c'est qu'on a des mesures de répression exemplaires qui ne tiennent pas la route, puisque ce qu'on veut juger très clairement, et ce qui est balancé dans la presse, c'est qu'on veut juger le fait que des individus se révoltent contre la police. Or, ce n'est pas du tout ce dont ils se retrouvent incriminés à l'issue de cette procédure-là. Et que les peines qui tombent sont celles que réclament ces groupes d'extrême droite, c'est-à-dire des exclusions de quartier et des peines exemplaires.
Ouais.
Et du coup, je voulais... Et dans cette affaire, sur les 8, il y a 3 jeunes qui sont mineurs. Donc eux, ils vont passer entre les mains de la justice des mineurs. On rappelle qu'on en a déjà parlé ici, que l'ordonnance de 45 qui régit la justice pour les mineurs a été réformée et que l'ensemble du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France... et des travailleurs, des éducateurs sociaux alertent sur le gros danger de cette réforme de l'ordonnance de 45 en disant que on transforme cette justice qui était censée, enfin qui l'était déjà pas terrible, mais qui avait un volet quand même éducatif, on transforme tout ça en une justice répressive. Donc pour des enfants, hein, on rappelle que tant qu'on n'est pas majeur, on est un enfant. Donc eux, on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas quand...
Quand est-ce qu'ils passent
enfin, quand est-ce que ça va être décidé pour eux.
Je ne me rappelle plus, je crois que
de toute façon, il y a un secret plus épais encore qui entoure la justice des mineurs.
Oui,
c'est assez terrifiant d'ailleurs que ce soit à ce point opaque. Ok. On continuera d'en parler s'il y a d'autres éléments qui...
On va suivre l'affaire à la suite.
Je pense qu'on essayera d'en reparler la semaine prochaine, puisqu'on a eu cet entretien avant le procès avec les avocats, et puis qu'on va terminer un petit montage pour revenir là-dessus et pour rendre public leur position. Et on essayera éventuellement de les solliciter pour savoir s'ils souhaitent venir dire un mot la semaine prochaine.
Ouais, carrément. Merci beaucoup.
Merci. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale ?
Si, justement.
On va déplacer nos sujets de les différentes parties, mais...
Qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute Ausgang ?
Ouais, et avant, on va écouter Zep.
D'accord, c'est parti.
Comme zone d'éducation populaire. Tout de suite.
Zep ! Zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeante l'évolution en 60 ans. Regarde à l'assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas t'en étonner, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de prolong. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire dont vous êtes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs, manipulateur. Tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fourest. Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatique. Leur discours arrogant, insultant et méprisant, ils présentent leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Elie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Sous les voûtes et les bizarre, je galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche, je rêve de revanche en semaine et le dimanche, je traîne en zone franche, où l'indigène flanche, où le système se penche, sur les peaux blanches, lèche les plus riches, prêche les bakchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent, ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides, le décor du nord et puis des caïdes, sans remords aucun et que la fièvre de leur guide, des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide, des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide, j'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand ils projettent de mettre en place l'apartheid, quand ma tête à l'écart et la cause qu'ils plaident, quand ils nous briment, nous rejettent et puis nous dépossèdent, et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout, abîmé, nomade et sans remède, j'ai de la haine en trop, refuse l'entraide, je ne demande ni aumône, ni offrande, ni aide. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure, insulte, lutte, chute, échec et injure. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir, choisir au hasard un boulot à saisir et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors moi je sors et m'emmerde à mort, je vis sans horaire, je dors à l'aurore, j'adore l'univers de la nuit, ses abords et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts, sans effort se sauvent avant les renforts, la casse et le Delbord, ma race et mon folklore, la crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière, aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère, faire du son, du sport, la photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure, n'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur, joue ma vie au baltrap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte, et il en résulte mes raisons de prendre le colt, au vu de ce que je récolte, la crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête, et puis sur ma route, sirène, descente, doute et déroute, une sale vie d'adulte que seul le sang exalte, et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte, et sa suinte, la crainte, les pleurs et les plaintes, les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte, les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente, l'achat et la vente, et les rêves qu'on s'invente, les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque, quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans l'étui. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Gazet, en falche, 2005.